500 000 s'il y a 10 000 américaines, 6 000 japonaises et 5 000 chinoises, il reste plus grand monde pour le reste, plus grande place pour le reste du monde. Et c'est évident que c'est celle qu'on entendait le plus. Et ce que Marianne a soulevé tout à l'heure, qu'est-ce que tous ces gens venaient faire là? Parce que c'est vrai que souvent, on ne savait pas qui étaient ces gens. Et j'ai le souvenir en feuilletant le programme, là, le matin, qu'est-ce que je trouve un atelier sur la santé des femmes organisé par une compagnie pharmaceutique japonaise. Alors, je voudrais bien qu'on m'explique qu'est-ce qu'une compagnie pharmaceutique japonaise faisait au forum des ONG, je veux dire. Et il y en avait plein, parce que... Alors, je veux bien que le forum, ces conférences doivent être ouvertes au plus de monde possible, mais pas des entreprises qui nous empoisonnent, je veux dire. Enfin, et c'est un peu là ma question, pourquoi on a accepté tous ces gens? Est-ce que ça ne va pas dans le sens de l'ONU et de nos gouvernements qui quand même commencent à en avoir marre des ONG et qui disent d'un côté « oui, on vous veut bien, vous êtes magnifiques » et de l'autre quand même n'ont pas trop envie de nous avoir à leur basque. Et en acceptant tant de monde, est-ce que ce n'était pas pour faire la preuve que vous voyez, ces forums ne sont plus gérables, aux prochaines conférences, on va faire différemment et il n'y aura que les grandes ONG, que j'appelle internationales, les multinationales des ONG qui sont habituées au roulement de l'ONU, qui ne dérangent pas trop et qui connaissent bien les mécanismes. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être ma mauvaise langue, mais là, moi, j'ai vraiment de très, très grandes questions à ce sujet. Et je reviens aussi en me disant maintenant, on doit faire quelque chose avec Pékin. Je crois que, bon, Marianne a dit qu'elle avait utilisé les stratégies de Nairobi, mais je crois qu'en tant que ONG ou groupe de femmes, on n'en a pas assez profité et je crois qu'il ne faudrait pas laisser passer l'occasion de Pékin parce qu'en plus, c'est vrai qu'au niveau économique, le document de Pékin est certainement moins utile. Mais la déclaration de Pékin réaffirme les stratégies de Nairobi. Et si on relit ces stratégies de Nairobi maintenant, je suis sûre qu'on peut en faire quelque chose, parce qu'il y a des déclarations, c'est à peine croyable que ce document soit sorti comme document de l'ONU quand on le relit avec le recul. Et je crois que c'est notre responsabilité maintenant, vraiment chacune dans nos domaines, de relire ensemble et Nairobi et Pékin, et de demander des comptes, parce que le gouvernement suisse a signé finalement ces documents. Donc, ça n'a aucune portée juridique, mais on peut quand même aller leur dire, mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Et pour nous aussi, pour nous inspirer et trouver des arguments dans nos combats et tout ça. Et je crois que c'est ça, enfin, moi, je reviens très, très remontée. Et je trouve que c'était une expérience très positive. Et il faudrait passer par-dessus les petits ennuis formels ou matériels ou je sais pas, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça. Parce que c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai vécu ça d'une manière magnifique et chaque jour, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance d'y être. Ouais.
Leppi, leppi, C'était le groupe de femmes finlandaises Wartina que vous venez d'entendre dans Remue Ménage, Onde Femmes, Radio Zone 93.8. Et pour terminer cette rencontre avec les femmes qui sont allées à Pékin, femmes provenant de Genève, à cette conférence, soit avec leur regard très officiel, comme celui de Patricia Schulz, chef adjointe de la délégation suisse à Pékin, soit à travers le regard de ces femmes qui participent d'habitude à des groupes de femmes et qui, un petit peu comme un aboutissement dans leur travail de militante, avaient très envie d'aller participer et suivre cette conférence. Eh bien, au travers de ces deux regards, vous avez un petit peu pu vous faire une idée de ce qui s'est passé à Pékin. Eh bien, il reste le regard d'une femme qui s'est trouvée dans les deux endroits. C'est Jane Cottingham. Elle travaille pour l'OMS. Elle était déléguée par l'OMS à Pékin. Elle a donc suivi la conférence officielle de l'ONU. Et puis, l'OMS a organisé, et elle a été responsable de l'organisation d'un de ces ateliers, l'OMS a organisé deux ateliers sur le problème de la santé des femmes. Puisque l'OMS travaille en collaboration avec des groupes de femmes qui travaillent sur la santé et des chercheurs qui se préoccupent des problèmes de contraception. Mais tout de suite, Jane nous fait un petit peu d'abord une sorte de rapport de ce qui s'est passé sur la question de la santé dans la conférence officielle. Jane.
Pour nous, à l'OMS, qui avons aussi vu et travaillé pas mal à la conférence du Caire sur les populations et le développement, on avait peur, donc avec beaucoup d'autres, que le langage de Beijing allait faire un pas en arrière par rapport à ce qui était acquis au Caire. Or, il faut dire que le résultat, en gros, était en fait un pas en avant. Il y avait certaines choses qui étaient acquises à Beijing, en tout cas dans le chapitre santé, qui ont avancé, en fait, les idées et les choses acquises pour les femmes. Et ça, pour moi, c'est évidemment une très bonne nouvelle. Alors, ces quatre choses, c'était des points difficiles, mais en gros, c'est des choses importantes. Donc, les droits, les responsabilités des parents, c'est un langage, un langage qui est apparu, je pense, 23 fois dans le document en tout, et pas mal de fois dans le chapitre de santé, qui dit plus ou moins, en fait, chaque fois qu'il y a une référence à adolescente, ou jeune fille, ou fille, dans le comité préparatoire, on avait ajouté cette phrase qui rappelait que les parents avaient les droits et les responsabilités. Enfin, je n'entre pas en détail du langage exact, mais... suffit de dire que c'était en fait très lourd et menaçait en fait surtout la confidentialité, au droit à la confidentialité et des adolescents, surtout en matière de chercher l'information, par exemple l'information sur la sexualité pour les adolescentes. Alors là, on a réussi à le faire enlever à part deux fois. Et non seulement ça, mais le langage est passablement modifié pour inclure justement le langage de la Convention sur les droits de l'enfant et aussi de la Convention pour la discrimination contre toute forme de discrimination pour les femmes. Élimination. Ouais, enfin, ensuite. Il y a l'avortement donc à risque. La conférence a fini par reprendre entièrement le texte du Caire, mais a rajouté autre chose qui est très importante, c'est-à-dire que c'est un appel au gouvernement de considérer une révision des lois qui pénalisent les femmes qui ont eu un avortement illégal. Donc, c'est un tout petit pas, ce n'est pas grand-chose quand on dit oui, mais quand même, mais c'est un tout petit pas vers la possibilité de changer les lois. Et donc, ça, c'est un grand pas en avance par rapport au Caire. Ensuite, il y avait toute la discussion sur les droits à la sexualité, sexual rights, comme on dit en anglais, qui, en fait, en tant que phrase, n'était pas acceptée dans les documents, mais... ce qui était acquis était quand même le sens, le langage que les femmes ont droit à la sexualité dénuée de toute forme de coercion, de violence. Et là, c'était aussi un langage plus fort que le Caire, et très important.
Finalement, il y avait aussi ce point sur les droits de la personne. J'ai mis culture et tradition entre parenthèses parce que dans le document, de nouveau à plusieurs endroits, je pense aussi beaucoup dans le chapitre sur les droits de la personne, il y avait une tentative de mettre tout, par exemple dans le chapitre santé, tout sous l'égide de lois nationales, culture et valeurs culturelles et traditionnelles. Ce qui est bien sûr très dangereux parce que finalement ça veut dire que enfin, tout pays peut plus ou moins faire ce qu'il veut, parce que tout peut être justifié sous l'idée que c'est une loi nationale, une culture traditionnelle. Alors, ce qui était important dans ce document, c'est qu'on a pu avoir un langage qui mettait les droits, ou plutôt le respect des cultures et des traditions, à condition que ça ne contredit pas les droits de la personne, les droits universels, non les droits internationaux. Donc, aussi très important comme gain. Bon, il y avait d'autres choses, comme avait dit Patricia, comme l'histoire de l'orientation sexuelle qui était longuement débattue mais qui n'a pas passé dans le document. Mais le fait qu'il y avait une discussion, bon, je n'étais pas présente, je suppose que c'était là, mais j'ai entendu des collègues dire, le fait qu'il y avait cette discussion à haut niveau, à l'ONU, même si c'était à 4 heures du matin, c'était quand même extraordinaire. C'est la première fois qu'on débat vraiment l'homosexualité à un niveau international. Et c'était donc une perte, mais aussi un gain, quelque part. Je pense que je vais, parce que ça commence à faire long, je vais limiter plus ou moins ça. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les détails, mais ça vous donne, je pense, un petit soupçon de certains thèmes très importants qui étaient débattus à Beijing.
Peut-être tu peux encore... nous donner tes impressions encore, peut-être, tu peux faire, sur justement l'importance d'être à un moment donné au cœur d'une discussion avec des femmes quand on anime un atelier, quelle différence par rapport à ces discussions plus officielles. Ouais.
C'est vrai que j'ai beaucoup navigué entre les deux parties, ou les deux conférences, si on veut dire. Et ça était extrêmement frustrant. Le fait qu'il y avait un... quasiment n'importe quel moment de la journée, au forum des ONG, une centaine d'ateliers. Alors, on ouvre le livre, et puis comment choisir? Bon, c'est vrai qu'il y en avait pas mal qui apparemment n'avaient pas lieu, on arrive, il n'y avait personne. Mais, bon, c'est tout de même, même si on passe tout notre temps là-bas, on a l'impression que, en fait, on a passé à côté de la vraie chose. Et ça, c'était frustrant. Mais... Je suis partagée sur le forum. Je suis d'accord avec des choses que Brigitte a dit. L'impression que finalement, 35 000 personnes, c'est beaucoup trop. En même temps, il y avait quand même, comme souvent dans ces choses, une sorte de force. Il y avait, moi, j'ai remarqué que certains ateliers, par exemple, attiraient beaucoup de femmes. Et je dirais que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu en discutant avec les amis et les collègues, c'est qu'il y avait quand même quelques grands thèmes où il y avait beaucoup de participation dans les ateliers. Ça, c'était économie, pauvreté d'abord, et projets pour que les femmes puissent avoir plus accès à de l'argent. Il y avait violence contre les femmes, c'était vraiment un très, très grand thème. Tous les ateliers que j'ai vus étaient vraiment bourrés. Violence et violence sexuelle contre les femmes, c'est vraiment, le grand sujet, un des grands sujets. Ensuite, il y a la santé. Dans toutes ces manifestations, il y avait beaucoup, beaucoup d'ateliers assez bien, où il y avait beaucoup de participation. Et le quatrième, qu'est-ce que c'était déjà ? Religion, voilà. C'était religion. Alors, contrairement à d'autres événements de ce type où j'ai assisté moi, il y avait, pour moi, beaucoup plus de groupes de femmes musulmanes. de différentes sortes d'ailleurs, aussi bien certaines bien sûr fondamentalistes et d'autres moins ou pas du tout, mais beaucoup de débats sur la religion dans toutes ses formes, mais spécialement l'islam en fait. Et ça, c'était quelque chose qui est vraiment, je pense, n'était pas du tout là, par exemple, en 75 à Mexico City. Animer un atelier, je ne sais pas, on a fait deux ateliers en tant que l'OMS, un avec, que j'ai animé moi avec quatre autres ONG. C'était quasiment impossible de savoir combien de personnes il fallait s'attendre. En fait, il y avait une cinquantaine à notre atelier qui avait eu lieu à 17h, qui est une mauvaise heure parce que les gens sont fatigués quand même. Il y avait aussi un concert tout d'un coup à côté dans la cour qui a démarré avec des haut-parleurs, vraiment plein tube. Donc c'était très difficile. On a dû fermer les fenêtres. Tout le monde crevait de chaud parce qu'il était très chaud au début. Pas génial, mais ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de débats.
C'est important.
L'atelier s'appelait les voix des femmes dans les choix en santé en matière de reproduction. C'est une traduction de l'anglais. Women's Voices and Reproductive Health Choices. On avait des femmes de différentes ONG, comme j'ai dit, comme du Bangladesh, de la Colombie, de l'Afrique du Sud, du Brésil et du Vietnam, qui parlaient de différentes initiatives faites par les femmes pour améliorer les services de santé, surtout en matière de reproduction pour les femmes. Et je pense que c'était bien, c'était très intéressant. Mais bon, moi j'aurais voulu que, quand on sait qu'il y a 35 000 personnes, 50, c'est pas beaucoup, j'aurais voulu qu'il y ait plusieurs centaines, mais c'est comme ça. Et puis le deuxième atelier qu'on a fait était sur l'avortement à risque, enfin unsafe abortion, comme on dit, qui était une présentation de plusieurs, des résultats de plusieurs projets de recherche que l'OMS a soutenus dans ce domaine. Qui était aussi, il y avait en fait, je pense qu'il y avait une centaine de personnes à cet atelier aussi. Mais c'était plus tôt dans la journée. Il y a sûrement plein d'autres choses à dire, mais je pense que ça va pour le moment.
Moonbeam comes beeping through. Yeah.
c'est Billie Holiday. Et dans quelques instants, eh bien, je vais vous proposer une réponse à une question, parce que malheureusement, nous n'avons pas le temps ce soir de faire plus, mais nous programmons une deuxième émission sur le débat qui a suivi cette présentation des différentes personnes, femmes qui étaient allées à Pékin lors de la conférence internationale au mois de septembre dernier.
Somebody whispered, please adore me. And I come on and turn to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a lamp of my own. And then there's...
Alors, une des questions qui, bien sûr, a été posée lors de cette soirée, et c'était inévitable, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec la Chine. Alors, quelqu'un a posé la question de savoir si la Chine, finalement, à l'avis des femmes présentes, s'était mordu les doigts d'avoir à tout prix voulu obtenir cette conférence, ou si, finalement, non, c'était pas si grave que ça pour elle, elle avait réussi à se protéger. Que s'était-il passé avec les manifestations des femmes tibétaines, entre autres, quelles furent les réactions des autorités? Et c'est Patricia Schuss qui, comme elle le dit, va essayer de répondre.
J'ai l'impression que c'est mélangé. C'est d'un côté, c'est le coup de projecteur sur ce pays avec les aspects extraordinaires et les pires. Et les pires ont été très bien éclairés, me semble-t-il. Et les autorités ont probablement été débordées par ce qu'elles avaient lancé. Le déplacement du forum à Wairou est vraisemblablement lié, enfin en tout cas c'est l'hypothèse qu'on a, à la visite du Premier ministre chinois au Sommet social mondial de Copenhague en mars, où il s'est fait huer, et deux semaines après rentrer à Pékin, on a appris que le bâtiment qui devait, en principe, ou les bâtiments qui devaient abriter le forum étaient insalubres et dangereux pour la sécurité. Moi, je crois que c'était plus pour la sécurité intérieure que pour la résistance du béton. Mais c'est je crois que c'est double dans cette affaire-là. Oui, voilà.
Alors, le bilan du forum, il y a la trace de tout ce qui s'est fait, tout ce qui s'est échangé.
Alors voilà, dans les derniers problèmes, tentatives d'échange de microphone pour passer à la personne qui avait posé la question, qui suivait tout de suite celle-ci, à savoir quel allait être le bilan pour les groupes de femmes en Suisse et comment les femmes allaient se retrouver. Eh bien, un tout petit bout encore.
C'est prévu, hein? À moins que toi, Brigitte. Non, je crois pas. Bon, moi, je voudrais répondre sur la préparation de la Suisse. Effectivement, nous étions une cinquantaine de Suissesses sur place, à peu près... Deux tiers de Suisses alémaniques, disons 40 Suisses alémaniques, une soixantaine de Suisses alémaniques, de Suissesses sur place, pardon, qui depuis 18 mois se préparaient à cette conférence, notamment la Suisse alémanique, tout un groupe de différentes ONG, d'organisations féminines, d'associations diverses, qui ont travaillé ensemble pendant longtemps, associant les romandes, dont nous, on a pris le train un peu en marche, on est allé à quelques réunions à Berne pour se mettre au courant, beaucoup moins, c'est vrai, que les Suisses alémaniques, mais maintenant, il y a un projet de brochure commune, de publication commune sur l'ensemble du forum, de la conférence, de ce qu'on a vécu là-bas, les témoignages et tout, et la Suisse romande va s'associer pleinement. Je vais même, moi, avec Eda et Filigrane, on va coordonner la partie romande. Ça, c'était pour montrer que les Suisses romandes ne sont pas toujours à la traîne des Suisses allemandes et qu'il faut aussi faire que nous, notre, même si on est en minorité, il faut qu'on y aille. Parce que sinon, il n'y a rien qui se fait, il n'y a rien qui suit, effectivement.
Alimauyo,
Alors bien sûr, la suite du travail, eh bien, c'est essentiellement d'abord la suite du travail des femmes, des organisations de femmes. Elles ne vont pas s'arrêter avec l'autosatisfaction d'une conférence internationale. Non, bien sûr, il y a encore beaucoup de pain sur la planche et tout le monde continuera son travail avec peut-être de gagner en plus, surtout le fait de s'être rencontrés, d'avoir échangé des informations et de créer de nouveaux réseaux de collaboration. Et c'est, je pense, le cas aussi pour les Suisses romandes et les Suisses allemandes, parce que c'est bien de se faire tirer par les Suisses allemandes pour qu'elles nous entraînent dans ce genre de conférences. On a toujours tendance à sous-estimer, je crois, en Suisse romande, l'importance des rencontres dans ces lieux-là. Et puis, bien sûr, du pain sur la planche pour toutes les questions qui devront se traiter au niveau fédéral. Alors, est-ce que oui ou non, il faut insister pour avoir certaines choses notifiées sous forme de loi, ou bien faut-il que les pratiques imposent des décisions? Eh bien, nous le verrons, c'est la suite du programme. Et bien sûr, l'assurance maternité, par exemple, est un des objectifs, et faire attention à ce qui va se passer sur l'avortement en est une autre. C'est entre autres, les questions de santé seront débattues dans un prochain séminaire qui est organisé par Femmes, Féminisme et Politique dans le cadre du collectif 14 juin et d'Espace Femmes International. Et dans ce séminaire-là, on abordera en particulier les questions concernant la santé des femmes, et l'avortement, bien sûr, sera questionné. C'est le samedi 2 décembre de 9h30 du matin à 13h, 14h si vous mangez avec nous. Et cela a lieu à Espace Femmes International, maison du bureau de l'égalité de rue de la Tannerie à Genève. Je répète, samedi 2 décembre. Espace Femmes International, rue de la Tannerie à Carouge. La semaine prochaine, tout autre chapitre dans Remue Ménage. Nous recevrons une femme qui va nous parler de la mode. Alors, qu'est-ce que nous avons bien à faire avec la mode dans Remue Ménage? Eh bien, pourtant, nous aborderons avec Elisabeth une toute autre façon de parler de la mode. C'est plutôt à travers sa pratique d'historienne de l'art qui observe le changement des vêtements au cours de l'histoire que nous aborderons la question de la mode, et surtout de comment la femme se sent dans son vêtement et non pas du tout l'art des couturiers ou du prix des fringues dans les grands magasins. À la semaine prochaine dans Remue Ménage, et tout de suite, c'est les informels de Radio Pleine Lune.
Jorobena jaman ne boke di de Allah.